RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, troisième heure des GG. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On vous attend au 32-16, justement, pour nos prochains sujets de discussion. Tout à l'heure, à midi moins 20, on va s'intéresser au cas de Christophe Glaize. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, est rentré d'Algérie. Et notre confrère Christophe Glaize n'est pas libéré. Mais Gérald Darmanin dit qu'il est bien traité. Donc on doit s'en satisfaire. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Bon, mais il est bien traité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bien traité? Heureusement qu'il est bien traité, parce qu'il est quand même, il a été emprisonné de manière arbitraire, Christophe Glaize. On en parlera tout à l'heure à midi moins 20. L'affaire Patrick Bruel, les plaintes s'accumulent. Flavie Flamand, sidérée. Patrick Bruel répète qu'il a eu plusieurs relations avec Flavie Flamand. Mais pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps, Flavie Flamand, pour parler de ce viol? C'est au 32-16 qu'on en discutera avec vous et avec nos grandes gueules, Joël Dagosséry, Jean-Loup Bonamy et Abel Boyi. Abel qui est éducateur, Joël qui est coach de vie et Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. D'abord, on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Face au GG, le candidat à l'élection présidentielle, maire de hier, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour.
Bonjour à vous.
Avec ce livre 2027, La liberté ou la mort, aux éditions Fayard.
Vous êtes le 31e candidat?
C'est pas la question. On verra sur la ligne de départ à la fin. L'important, c'est.
Pour l'instant, vous n'êtes pas sur la ligne de départ, là.
Mais personne n'est sur la ligne de départ. La ligne de départ, c'est quand.
Philippe, par exemple.
La ligne de départ, c'est quand.
Jean-Luc Mélenchon.
La ligne de départ, c'est quand on a nos 500 parrainages. Mais je l'ai déjà eu. Et je suis maire moi-même. Il y a beaucoup de maires qui me font confiance. Et j'espère que, bien sûr, je ferai tout pour être sur la ligne de départ. Ce que je veux dire, c'est que ça va s'écrémer. On nous fait le coup à chaque fois. Voilà. C'est un marronnier. Bon. Il y aura à la fin une dizaine de candidats.
Y retourner.
J'y serai pour une raison très simple, unique. Unique. Et c'est le thème de mon bouquin, de ce livre. C'est que je pense que je serai le seul pendant cette campagne à demander la sortie de l'Union européenne pour reprendre notre liberté. Parce que j'ai analysé, après des années de vie politique, j'ai changé d'avis là-dessus. Je pensais qu'on la changerait de l'intérieur. Et j'explique dans ce livre pourquoi on ne peut plus la changer de l'intérieur et pourquoi il y a un moment, si on veut résoudre nos problèmes, industrie, agriculture, sécurité, immigration, énergie, il y a un moment, il faut dissoudre l'Union européenne, il faut sortir, appeler d'autres pays à sortir avec nous et reconstruire une Europe très légère.
Frexit.
C'est pas obligatoirement le Frexit, l'Angleterre est sortie seule. Je veux qu'on sorte et qu'on appelle d'autres pays à reconstruire un truc qui marche, c'est-à-dire une Europe qui marche. Elle a marché à une époque.
Qui aurait envie de venir avec nous dans cette aventure?
La France est un grand pays et la France a porté toujours un idéal de liberté. On peut pas continuer avoir nos décisions de vie quotidienne prises par des gens non élus, souvent corrompus, qui nous entraînent vers la guerre, qui nous mettent dans la paupérisation. C'est un suicide civilisationnel. Et moi, je pense qu'à un moment, la France est un grand pays et que les Français doivent reprendre leur liberté, doivent décider pour eux-mêmes. Parce que le problème, et j'analyse dans le livre, thème par thème, pourquoi on est paralysé? Pourquoi rien ne change?
Oui, mais c'est pas un peu facile de dire que si en France rien ne va, c'est à cause de l'Europe. Parce que prenons un exemple concret. Tout à l'heure, on en débattait. En 2025, 60% des étrangers en rétention, qui sont donc dans les centres de rétention, les fameux CRA, qui ont été créés dans les années 80. Donc 60% des étrangers, quand ils sortent de ces CRA, ne sont pas expulsés. Ça, c'est pas un problème européen. C'est parce qu'on n'y arrive pas.
Mais
c'est un problème français.
Dans mon livre, je ne mets pas tout sur l'Europe. Je dis simplement que par exemple sur l'immigration, soyons clairs, si on veut avoir une politique migratoire qui marche, comme tous les pays du monde, sauf ceux de l'Union européenne, faut contrôler sa frontière. Le Premier ministre espagnol a régularisé 500 000 personnes. Ils peuvent venir en France. À quoi ça sert ? Il y a un moment, j'ai analysé, j'ai pris des exemples étrangers, des petits pays, entre guillemets, beaucoup plus petits que nous, ont les leviers de manœuvre, peuvent décider pour eux-mêmes, et sont d'ailleurs beaucoup plus responsables d'eux-mêmes. J'analyse dans le livre
quel
comment...
Quel est le pays modèle alors?
Mais il n'y a pas de pays modèle. Il y a des pays dans le monde, mais il y a des pays, la Suisse par exemple, en matière agricole. C'est un pays libéral, c'est un pays ouvert, et en même temps, protectionniste. Il y a une politique agricole nationale qui marche très bien. Le Canada a une politique agricole nationale. Nous, on déverse 15 milliards nets, c'est-à-dire on donne 15 milliards de plus qu'on reçoit à l'Union européenne. Et on a une politique agricole suicidaire qui est en train de tuer notre élevage, le traité Mercosur, on a été mis en minorité. Donc, il y a un moment, énergie, agriculture, sécurité, immigration, j'explique, c'est concret. J'ai voulu aller au fond des choses, j'ai mis 2 ans à écrire ce livre. J'ai expliqué qu'un pays ne peut résoudre ses problèmes que s'il a la capacité de le faire. Alors bien sûr, il y a des défauts français. J'ai jamais dit que ça serait la solution miracle. À la fin du livre, je fais un scénario fiction.
Les normes françaises, c'est pas des normes européennes, c'est des normes qu'on rajoute aux normes européennes.
Il y a les deux. Je dis dans le livre, une fois qu'on a retrouvé notre liberté et notre démocratie, parce qu'il y a un problème démocratique en France, je propose le RIC, le référendum, je veux un usage à la Suisse. Une fois qu'on a retrouvé la démocratie, la liberté, ah ben, il va falloir se retrousser les manches, oui. Mais on ne peut se retrousser les manches que quand on prend les décisions pour nous-mêmes.
Alors, question.
C'est pareil pour un individu. Un individu, madame est coach, je crois. Oui. Un individu ne peut se libérer et aller dans une bonne direction que s'il est libre de lui-même.
Quoi, je suis.
Alors là, Joël Dagosséry,
je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je prône l'émancipation, mais malheureusement, c'est pas ce que j'ai retrouvé dans votre livre, parce que vous, Monsieur Dupont-Aignan, vous voulez vous émanciper de l'Europe, d'accord. Donc ça, j'ai bien compris. Mm-hmm. Et ça porte à confusion parce que le titre, c'est liberté ou la mort. Moi, quand je lis ça avec mes positions libérales, je me frotte les mains. Je me dis, oh waouh, là, je vais prendre du plaisir. Attention. Et puis plus je lis le livre, et plus ça se coince. Ça coince, ça commence à devenir désagréable. J'ai l'impression qu'on me prend en tenaille. Parce qu'en fait, vous voulez vous émanciper de l'Europe. Mais par contre,
de l'Union Européenne, oui. Avec l'Europe. Il y a une belle Europe.
Complètement.
Et il y a une défiguration de l'Europe.
On se libère donc de l'Union Européenne, oui, mais pour être enchaîné à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que vous êtes un étatiste pire, de la pire espèce, pardon de dire ça comme ça. Oui, complètement.
Un étatiste.
Vous êtes un dirigiste, un étatiste. Subvention à gogo, blocage des prix, mais c'est LFI. C'est LFI déguisé en liberté. Donc,
allègement des charges sur les PME. Mesures de liberté individuelle, je refuse le système DSA. Liberté sur les réseaux sociaux. Chèque pour les médias. Chaque Français donnerait un chèque médias pour éviter le subvention de toujours les mêmes. Et chaque Français choisirait son média, subventionnerait son média. Les 4 milliards qu'on donne à l'audiovisuel public, on économise la moitié. Et les 2 milliards qui restent, les Français les donneraient aux médias de leur choix, 50 euros par an.
Oui, il y a beaucoup de propositions libérales dans le livre.
Oui, il y a des propositions libérales.
Et des baisses d'impôts,
mais on est quand même sur un logiciel assez dirigiste avec une renationalisation d'EDF, par exemple.
Mais oui,
des choses comme ça.
Mais parce que EDF, c'est l'escroquerie du siècle. On paye l'électricité 2 fois plus cher qu'avant. Oui. J'estime qu'on peut avoir du libéralisme. Pour les PME.
Les autoroutes aussi.
Les autoroutes, bien sûr.
Les autoroutes, ça coûte 50 milliards.
Mais vous plaisantez.
Renationaliser EDF, ça coûte pareil, les à peu près 50 milliards.
EDF, c'est déjà fait.
Ouais, mais comment
EDF, c'est déjà fait. Je propose, c'est déjà renationalisé. Je propose de sortir du marché européen, de retrouver la liberté.
C'est ce que l'ont fait certains pays européens.
L'Espagne et le Portugal. C'est tout à fait jouable. On diminuerait la facture d'électricité de 30%. Ça, c'est prouvé. Deuxième point, les autoroutes. C'est du racket. Du racket organisé. Le renouvellement des concessions.
Vous payez un péage aussi.
Le renouvellement des concessions permet d'arrêter ce racket. C'est un racket de 4 milliards d'euros sur le porte-monnaie des Français.
Et vous enlevez les péages. D'accord.
Et je mets une taxe sur les camions étrangers qui traversent la France. Pour entretenir notre réseau. Et ça marche très bien.
Vous reconnaissez quand même que l'Union Européenne, pour vous, c'est un super bouc émissaire quand même. Parce que je regarde aujourd'hui au sein de l'Union Européenne, on a des pays. L'Allemagne s'est réformée. Tout en étant au sein de l'Union européenne. L'Irlande a des caisses qui débordent, ils savent même plus quoi faire en fait de leur argent alors qu'ils sont dans l'Union européenne. Donc reconnaissez quand même que nous avons des marges de manœuvre que nous n'actionnons pas tout en étant à l'intérieur de l'Union européenne.
C'est une très juste question, je pense cependant que sur les grands défis d'aujourd'hui, nous sommes paralysés par une prison qui s'appelle l'Union européenne. Tout est décidé par des gens qui ne sont pas élus et la crise démocratique. La vraie crise démocratique. Pourquoi les Français, j'ai entendu vaguement la fin de votre émission, sont écœurés de tout? Parce qu'ils élisent des gens qui servent à rien. Ils servent à rien, nos élus, puisqu'ils ne décident plus rien. Ils vont à Bruxelles demander des ordres de gens qui ne sont pas élus. Moi, je veux remettre en marche la démocratie française. C'est un changement fondamental. Après, les Français trancheront. Ils trancheront s'ils veulent plus de libéralisme, moins de libéralisme. Mais est-ce qu'on peut pas un jour faire confiance au peuple français?
Ça, je suis d'accord.
Jean-Loup Bonamy.
Quand même, un jour.
Jean-Loup.
Attendez, le peuple français, il a été bafoué, il avait voté non en 2005. Oui, enfin, l'a bafoué.
D'accord. Mais le peuple français, il n'a pas donné de majorité, ce qui fait qu'on est dans
le. Oui, mais parce qu'il a bien compris que c'était des pantins. et qu'on mettait des gens qui allaient chercher des ordres ailleurs. Nous sommes un pays colonisé par les États-Unis, par la Chine, par Bruxelles. Et à un moment, il faut se décoloniser. D'aller reprendre notre liberté.
Jean-Loup boit du petit lait, là.
Ah bah, moi, j'ai beaucoup apprécié votre livre qui est argumenté. Documenté, donc vraiment j'en recommande vivement la lecture à tous nos auditeurs, et donc vraiment le livre est très très intéressant. Surtout je remarque quelque chose, c'est que les gens du camp d'en face, les européistes, ne répondent jamais sur le fond. C'est des propos généraux à dire oui mais tout seul on peut pas y arriver, on est trop petit, alors que vous donnez l'exemple de beaucoup de petits pays, même l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui fonctionnent très bien sans être dans ces grands ensembles mortifères comme l'Union Européenne. Et je vois que les européistes ne répondent jamais sur le fond. Sur le marché européen de l'électricité, ils répondent jamais. Voilà. Donc, je constate déjà ça. Je constate également que vous êtes l'un des rares à parler de l'international, où vous avez une vraie connaissance des pays, du monde africain, du monde arabe. Et enfin, vous pointez du doigt justement que, en fait, nos gouvernants, on en parlait tout à l'heure à propos de Monsieur Lecornu, ne gouvernent plus rien, n'ont plus aucun pouvoir. Ce sont les Gauleiters de la province France, dans l'ensemble germano-européen, qui nous colonisent. Donc, bravo pour votre livre. Et donc, justement, quand on parlait de l'international, j'aimerais qu'on aille un peu sur un autre sujet. J'aimerais savoir votre position sur, justement, plus d'actualité sur la crise iranienne. Et que feriez-vous si vous étiez aux affaires ?
J'étais un des rares. À contester cette décision de bombardement.
Eh ben bravo.
Et j'ai été là aussi mis à l'index. On ne change pas un pays en bombardant ses populations. Voilà. J'ai dit à l'époque, mais ultra minoritaire, et j'ai dit que plus on allait bombarder les Iraniens, plus le régime allait se renforcer. C'est une évidence, c'est du bon sens. Et voilà, on arrive à une catastrophe. Et je veux aussi, pas seulement l'Union européenne. En fait, je pense que les dirigeants français sont exactement comme les dirigeants des anciennes colonies françaises, complètement aliénés dans leur tête à des intérêts étrangers qui pillent le pays. Je pense ça vraiment. Okay. Et je pense que nos dirigeants français ne sont plus aptes parce que ils ont peur de diriger. Ils ont peur d'assumer leur choix. Et les Français les respecteront. On peut respecter un adversaire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être en désaccord avec la politique que je propose dans la troisième partie, mais au moins on reconnaîtra que je traite les Français en adultes. Et quand je vois les forces politiques qui se dessinent pour la présidentielle, moi je pensais pas être candidat à nouveau, je vais être très franc avec vous. Je m'étais dit, allez, une quatrième, c'est fini, j'arrête. Et quand je vois cette espèce de déliquescence morale, psychologique de nos candidats à la présidentielle, qui veulent plaire au système.
Même Jordan Bardella ?
Mais qui veut tellement plaire au système que nous, on a beaucoup d'adhérents du RN qui viennent à Debout la France, tout simplement parce que, ou du LR, ou de gauche parfois, de gauche républicaine, parce qu'ils disent, au moins il y a une ligne. Je vais défendre à la présidentielle une ligne. Et je suis totalement libre dans ma tête.
Et surtout,
totalement libre.
Alors attendez, parce qu'il reste beaucoup de temps. Abel,
vous êtes quand même un phénomène politique.
Ah bon,
si j'étais taquin, je dirais un mix entre Pierre de Coubertin et Highlander. J'ai l'impression que depuis que je suis adulte, je vous vois à toutes les élections présidentielles. Pour être plus sérieux, vous êtes un homme très cultivé et je pense qu'il y a une chose qui n'est pas faite au hasard, c'est déjà le titre du livre. La liberté et la mort, c'est le titre du roman de Nikos Kazantzakis qui est sorti dans les années 50, qui parlait déjà de la bataille des Crétois contre l'emprise de l'Empire Ottoman. Et quand on lit votre bouquin, ben on voit que vous étiez le Crétois et l'Empire Ottoman, c'était d'abord l'UMP qui avait trahi le gaullisme et trahi Philippe Séguin. Et vous invitez les Français à être ces Crétois qui vont... L'Empire Ottoman aujourd'hui, c'est la mondialisation, l'OTAN, l'Europe et les politiques déconnectées. Avez-vous un mot pour la jeunesse, tout simplement? Parce que moi, je vous ai beaucoup écouté et j'ai l'impression que vous faites la même erreur que beaucoup de politiques, c'est-à-dire vous opposez la jeunesse des quartiers populaires à la jeunesse des campagnes qui subissent exactement le même sentiment d'abandon. Moi, j'aime parler de la jeunesse avec les hauts gradés militaires parce que eux, quand vous parlez avec eux, ils maîtrisent vraiment le sujet. Vrai. Les politiques sont toujours éclatées. Et dernière question rapidement. Quand on lira votre livre dans 50 ans, que voulez-vous que l'on retienne de vous?
Vous avez été président. C'est pas qu'il avait raison. Parce que avoir raison.
Et sur la jeunesse.
Avoir raison et ne pas y arriver, c'est, il a, contre tous, au début, eu le culot, la folie, l'inconscience de se présenter et il a sauvé le pays.
Deux questions d'actualité.
C'est prétentieux.
Vous n'avez pas répondu
sur la jeunesse.
Et quant
à la jeunesse, je vais vous dire, la jeunesse, justement, parce que je suis élu et j'ai pas été réélu à 80% avec les idées politiques que j'ai dans une ville de banlieue par hasard, c'est que la jeunesse Je ne fais aucune différence entre les jeunes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Et je suis un des rares là-dessus. Et j'ai jamais fait commerce de ça. Et la jeunesse reprendra espoir dans la France quand la France redeviendra un pays. Voilà, c'est tout. Un pays libre.
Et non plus une colonie.
Pas une colonie.
Oui, mais comment l'unir, celle des campagnes et celle d'actualité.
Ouais.
Deux questions d'actualité. Les voyages des ministres en Algérie, après M. Nunes, le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin qui était hier en Algérie. Il a rencontré M. Tebboune. Est-ce que c'est la bonne méthode, la méthode plus douce que Bruno
La prostitution d'État.
La prostitution d'État.
Oui, c'est la prostitution d'État. Donc, si ça sauve Christophe Glaize, je dirais, il s'est prostitué, il a sauvé Christophe Glaize, mais je pense pas que ce soit la bonne méthode. Maintenant, il y a le destin d'un homme, donc je veux pas faire de polémique là-dessus, mais après, il faut arrêter. Il faut dénoncer les accords de 68, il faut retrouver une relation noble avec l'Algérie, et je ne confondrai jamais le peuple algérien, qui souffre beaucoup, des dirigeants algériens. Et ça, c'est très important. Donc moi, je ne veux pas faire commerce d'un conflit imaginaire entre la France et l'Algérie, parce que le peuple algérien, il aime la France, contrairement à ce qu'on dit, mais il a des dirigeants qui font commerce d'une haine recuite et cuite pour se maintenir au pouvoir. Et je ne pense pas que d'aller les câliner et leur cirer les pompes soit la bonne solution.
Et puis le film L'Abandon, qui raconte les derniers jours tragiques du professeur Samuel Paty, est-ce que ce film doit être diffusé dans les écoles?
Je ne sais pas là-dessus, mais en tout cas, c'est un... J'ai pas vu le film, et heureusement qu'il y a la liberté d'avoir un film, et j'ai vu les critiques du film, je me suis dit, mais on est chez les fous. Au nom de quoi on peut critiquer un film là-dessus? Un drame? Après, sur les écoles, je sais pas, j'ai pas vu le film. Quand je verrai le film, je vous dirai.
Mais,
et puis l'école, ça veut dire quoi? Si c'est le lycée, aucun problème. Si c'est le collège, non, on verra. Si c'est le primaire, faut peut-être arrêter.
Tout à l'heure, c'était la discussion
que nous avions
avec nos auditeurs au 32-16. Mais il va se passer quoi d'ici 2027, Nicolas Dupont?
Tout est possible. Et moi, si vous voulez, je veux appeler les Français à penser par eux-mêmes. Voilà. À penser par eux-mêmes.
Il y aura une colère, il y aura un mouvement social à la rentrée.
Je pense que la proximité de l'élection présidentielle peut éviter peut-être un mouvement de colère sociale et protestataire, mais il faut que l'élection présidentielle serve à quelque chose. Moi, c'est pour ça que je suis candidat. Si l'élection présidentielle, c'est pour faire deux images, Bardella, Édouard Philippe, construit par un système.
Ou Bardella-Mélenchon.
Mélenchon que je combats totalement, au moins une ligne claire. Voilà, je le combats complètement. Mais. C'est une personnalité qui a une ligne. Mais Édouard Philippe et Bardella qui vont faire la course à plaire à un système qui s'effondre, la maison s'effondre sur eux, ils veulent plaire à la maison. Mais moi, je veux aller en dehors de la maison, je veux fuir cette maison.
Mais honnêtement,
tout est possible.
Mais vous dites quatrième candidature, bon, j'ai réfléchi, mais il semble-t-il, certains comme Marion Maréchal aimeraient quand même vous voir rejoindre Jordan Bardella ou Marine Le Pen, on ne sait pas encore qui sera candidat, comme vous l'avez fait d'ailleurs précédemment.
Non, je l'ai fait au second tour face à Emmanuel Macron.
Pour que le mouvement soit plus fort, c'est-à-dire que d'être uni dès le premier tour.
J'ai toujours été exemplaire dans l'unité. J'en ai pris plein la gueule en votant contre Emmanuel Macron et en soutenant Marine Le Pen en 2017. Mais l'unité au second tour, c'est pas l'unité au premier tour, surtout s'il n'y a pas de clarté dans le projet. Moi,
Bardella, c'est pas clair pour vous.
Ah bah pour moi, c'est pas clair. Et il y a une différence fondamentale, c'est que pour mettre en œuvre ce qu'il veut mettre en œuvre et avec lequel je suis d'accord sur certains points, parce que je vais pas nier des proximités, comme il y en a avec d'autres, il faut être libre de le faire. Mais expliquez-moi comment on va réduire l'immigration et assimiler ceux qui sont sur notre sol sans contrôler nos frontières. Expliquez-moi comment on va changer l'Europe de l'intérieur quand il y a 22 pays contre nous sur le Mercosur. Expliquez-moi comment on va... Donc, tout ça, c'est des fadaises. Il faut maintenant dire la vérité aux Français. Moi, je veux dire la vérité pendant cette campagne. J'ai un an pour parcourir la France et dire on peut s'en sortir autrement.
Voilà. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être passé par les GG. Nicolas Dupont-Aignan, 2027, la liberté ou la mort. Le livre est aux éditions Fayard. Dans un instant,
merci.
L'affaire Bruel, Flavie Flamand est sidérée. Elle continue d'évoquer ce qui s'est passé avec Patrick. Pourquoi n'a-t-elle pas pu parler avant? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Il est 11h20. Vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous, c'est au 32-16 que ça se passe. Nous sommes avec Abel Boyi, l'éducateur, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, Joël Dagosséry, la coach de vie. On va continuer d'évoquer l'affaire Bruel.
Mais je trouve pas de refrain à notre... Tous les mots qui me viennent sont dérisoires.
Pourtant, les mots lui sont venus. Il s'en est expliqué sur les réseaux sociaux. C'est ce que dit Patrick Bruel. Jamais il n'a violé, jamais il n'a agressé, jamais il n'a soumis chimiquement. Mais Flavie Flamand, elle, a déposé plainte. Elle accuse Patrick Bruel de l'avoir violé, là où lui parle d'une relation consentie.
En fait, on assiste au procès dans les médias parce que c'est les avocats qui parlent de chaque côté. Donc ce matin, par exemple, il y avait sur Inter, France Inter, l'avocate de Flavie Flamand, Maître Herman. Et puis ensuite, lui a répondu sur BFM TV, quelques heures après, l'avocat de Patrick Bruel, Christophe Ingrin. Alors la question est de savoir, est-ce qu'entre eux deux, c'était une relation sexuelle consentie, oui ou non? Patrick Bruel, via son avocat, laisse entendre qu'ils se sont vus plusieurs fois et que c'était en gros une sex friend, comme on dit. Et Flavie Flamand dit non, moi je ne l'ai vu que deux fois, la première fois quand je l'ai rencontré, la deuxième fois dans son appartement. Donc on est parole contre parole sur des faits qui se sont produits il y a une trentaine d'années, puisqu'on parle de 1991, ça fait 35 ans d'ailleurs, les faits sont prescrits, c'est ce que disent les avocats. Il y aura donc sans doute jamais de procès. Donc moi je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'il y a un petit malaise dans cette histoire. C'est-à-dire qu'à la fois, on a envie d'entendre la détresse de Flavie Flamand et de ce qu'elle raconte, et en même temps, il y a la défense de Bruel, et tout ça se fait sur la place publique. Et finalement, peut-être que tout sera ne sera jamais jugé, donc il n'y aura jamais de vérité judiciaire. Et qu'est-ce qu'il en restera,
Joël?
Ben non, moi, il n'y a pas de malaise. Enfin, je veux dire, viol ou pas, ça, c'est à la justice de... J'espère qu'elle pourra faire la vérité. Mais on parle d'une fille qui a 16 ans avec un type qui a plus de 30 ans. Donc, excusez-moi, moi j'ai une fille, elle a 16 ans. Donc, va pas m'expliquer qu'une fille qui a 16 ans, où la relation a été consentie, le type, il a 32 ans, bah non. Ça, déjà, c'est un scandale.
Mais donc, le couple présidentiel, par exemple, ça te scandalise?
Mais c'est pareil. Mais oui. Oui. Mais bien sûr que c'est un scandale. Oui. Mais bien sûr.
La majorité sexuelle est à quel âge?
Oui, ben, 15 ans. Ça, c'est ce que les avocats aiment bien dire, bien entendu.
Mais oui.
Ça, c'est légal.
Mais je veux dire.
Dans ce cas, si j'ai 60 ans et que je sors avec une fille de 15 ans, je veux dire, c'est une histoire d'amour, tout va bien.
Mais oui, une fille qui a 16 ans, qui arrive sur le terrain médiatique, qui est toute fraîche et tout. Lui, il a 32 ans, ça fait un moment qu'il roule sa bosse. Bon, bah, excuse-moi, le pouvoir d'emprise ou ce que tu veux, ou même d'influence, ou même d'admiration, ce que tu veux, il est là. Donc, moi, je vois pas beaucoup de gens, déjà, qui s'offusquent, parce qu'en France, on aime tellement être laxiste sur ces sujets-là, bref, qui s'offusquent du fait que
un
type
d'âge
qui a 32 ans, pas la différence d'âge, non, la minorité de cette fille,
oui.
C'est pas la différence d'âge.
Oui, c'est la minorité.
Mais oui, c'est pas un problème, avant la différence d'âge. Exactement. Qu'un type qui a 32 ans te dise c'était consenti avec une gamine de 16 ans. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Donc maintenant, sur le viol, ben, on verra bien. Là, c'est très long, donc c'est très loin, donc ça va être compliqué, mais on verra bien ce que la justice fait. Mais déjà, rien que ça.
Qu'elle ait été droguée, c'est ce qu'elle dit.
Oui, déjà, ça.
Et puis,
et rien que ça, il est déjà, pour moi, il est disqualifié. Il est disqualifié pour moi.
Abel.
Je vais lire une phrase qu'il a dite dans son communiqué. Je comprends aussi que la notoriété ou le statut peuvent biaiser une relation de séduction. Donc la victime est conne, en gros. Ouais. En gros, quoi. Elle peut pas comprendre parce que peut-être qu'elle a été trop éblouie par la notoriété de monsieur. On respecte la présomption d'innocence. Premièrement, Flavie Flamand utilise sa notoriété pour être une lanceuse d'alerte et il faudrait pas que le traitement médiatique laisse croire, même de façon insidieuse, que la plainte de Flavie Flamand serait plus importante que la plainte des autres personnes qui sont inconnues. Et encore d'autres plaintes qui vont arriver. Donc voilà, on attend de voir ce qui va se passer. Il y a la question qui ressort souvent. Pourquoi est-ce qu'une victime attend 5, 10, 20, 30 ans? Vous vous rendez pas compte à quel point c'est un coup de poignard. Moi, j'ai pu déjà témoigner dans cette émission de ce qui m'est arrivé. Au mois d'avril, là, de 2026, ça a fait 30 ans. J'ai 44 ans, ça s'est passé quand j'avais 14 ans. J'ai jamais porté plainte. J'ai jamais porté plainte et je le ferai jamais. Et il se trouve que par concours de circonstances, j'ai rencontré des anciens potes de quartier dans lequel j'ai grandi, qui ont été victimes par la même personne, qui commençaient à faire un collectif justement pour porter plainte contre l'agresseur, et on a découvert qu'il était mort. Mais moi, je comptais pas le faire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, quand vous êtes victime d'une violence sexuelle, déjà le fait de le réaliser, c'est compliqué. Vous passez par le sentiment de culpabilité. Et effectivement, oui, quand vous allez relater les faits, il peut y avoir des incohérences parce que c'est dur à raconter. C'est pas parce que vous mentez forcément. Et oui, on va me dire, oui, il y a des femmes qui mentent. Oui, sur une femme qui ment, Il y en a 1000 qui sont vraiment agressés. Donc, quand, en fait, les médias aiment toujours poser la question, ou même sur les réseaux, mais pourquoi elle a mis autant de temps à réaliser que c'est un nouveau coup de poignard? Parce que et je vais finir dessus. La personne qui est victime de violences sexuelles, elle est dépossédée de son corps qui sert comme un objet de plaisir pour l'agresseur. Mais quand on lui demande encore, mais pourquoi tu as attendu tout ce temps? Ben, on veut te déposséder de ton âme, en fait. Il y a des gens qui parleront jamais. Il y a des gens qui parlent au bout d'une semaine, 5 ans, 10 ans.
Et pourquoi le faire publiquement? Pourquoi le faire devant un journaliste? Pourquoi ne pas aller directement? Pourquoi ne pas ouvrir la porte d'un commissariat et porter plainte? Pourquoi être obligé de passer par tel ou tel média? Non, mais je pose la question parce que finalement, après, on prend à témoin tout le monde. On prend à témoin tout le monde d'une histoire qui est très personnelle, de gens qui se défendent, et chacun a le droit de se défendre, et chacun a le droit d'accuser s'il se sent victime. Mais finalement, le grand public se retrouve à devoir trancher. Maintenant, chacun doit choisir son camp. Alors, Joël a choisi son camp, et tout le monde doit être obligé de choisir son camp. Et c'est ça qui me dérange. Quand je parlais de malaise, dans ces affaires-là,
c'est que
très
médiatisé.
Le fait que la victime se dise il faut que je passe par un média pour me faire entendre. Enfin, finalement, elle a pas besoin de passer par un média pour se faire entendre. Elle peut rentrer dans n'importe quel commissariat de France et déposer plainte, et sa plainte sera
prise
en compte.
Mais tu sais que toute action radicale est la réponse à une défaillance du système. Le nombre de plaintes qui aboutissent réellement à une condamnation, on est en dessous de 1%. Oui. Et je parle pour des cas véridiques.
Là, il y a les prescriptions.
Pas pour des fausses. Ouais, mais même quand il n'y a pas prescription.
30 ans après, il y a prescription.
Même quand il n'y a pas prescription, toutes les jeunes avec qui je discute, les jeunes filles qui me disent qu'elles ont été victimes de violences sexuelles, la majorité,
les
plaintes.
Mais on parle d'une animatrice connue.
Les plaintes n'ont pas abouti. Mais la personne, quand on prend son cas, on respecte présomption d'innocence, faut le répéter à chaque fois. Quand un homme est puissant ou quand l'agresseur est puissant, c'est extrêmement difficile parce que la première chose auquel vous êtes exposé, c'est le risque de perdre votre vie sociale. On enlève le cas de Patrick Bruel, on prend un monsieur X, il est condamné. Même si vous avez eu raison, il y aura toujours des personnes qui vont vous insulter et vous risquez d'être blacklisté, même si c'est vrai.
Mais
on se rend pas compte. Mais il y a plein, même parmi les personnes qui ont porté plainte contre elle, et même celles qui n'ont pas porté plainte, qui ont parlé. C'est comme pour l'affaire PPDA. Beaucoup de personnes ont dit, moi je préfère rester anonyme parce que sinon je vais perdre mon emploi.
Il y a encore un procès.
Mais c'est la réalité. Peut-être.
On est dans la bataille médiatique. Jean-Loup.
Peut-être, mais c'est la seule manière de se faire entendre.
Jean-Loup Bonnet. Alors je suis un peu pris au dépourvu parce que je ne m'exprime jamais par principe sur ce type de sujet. Donc je n'ai aucun avis ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Il faut qu'il y ait une enquête. Par contre, Joël a apporté un élément que je ne connaissais pas. Et comme tu l'as dit, en soi, même indépendamment de l'enquête et même indépendamment de la question du consentement ou du non-consentement, c'est vrai que c'est un problème quand même. Alors, pas forcément un problème légal, mais c'est quand même un problème qu'elle ait 16 ans, quoi. Et que lui, s'il reconnaît déjà une relation, même qu'il dit, selon lui, consentie, c'est déjà un problème qu'elle ait 16 ans. Alors, elle aurait eu 18 ans, il n'y aurait pas eu de problème. Un gars de 32 ans, ou même de 60 ans, ou une femme avec quelqu'un de 18 ans, voilà, les gens à 18 ans sont majeurs, ils savent ce qu'ils font. Mais 16 ans, t'es pas majeur. 16 ans, c'est avant 18. Et donc.
Oui, mais
donc
la majorité sexuelle, c'est 15 ans.
Et oui, non, mais on est d'accord que la majorité sexuelle, c'est 15 ans, mais elle devrait peut-être être remontée. Elle devrait peut-être être remontée à 18. Et à 18, tu fais ce que tu veux.
Ça veut dire qu'une jeune fille de 17 ans pourrait pas avoir de rapport sexuel?
Non, mais c'est une vraie question, mais tu fais ce que tu veux à 18 ans avec des gens de 18, de 32 ou de 60, mais avant 18, c'est vrai que c'est un problème. Et c'est vrai que c'est quand même une faute de la part de la personne qui, en face, accepte. Quand, dans l'hypothèse où ça serait consenti, accepte avec une personne de 16 ans. C'est vrai que là, il y a quand même un petit peu un problème. Voilà, 18, c'est 18.
Il y a deux choses.
Et voilà, j'ai aucun avis sur le reste de l'affaire, mais 16 ans, c'est un peu gênant quand même.
Tous les concerts rock, toute la littérature consacrée à la musique, à la starification, parle du phénomène des groupies.
Oui.
Voilà, de ces jeunes filles qui, à la fin des concerts, viennent pour croiser la star.
Non, mais le gars a qu'à aller avec des groupies de 19 ans et pas de 16.
Coucher avec la star. Il y a deux choses. Il y a même eu aux États-Unis, il y avait un livre qui a été fait sur des groupies célèbres qui s'appelait les GTO. Elles faisaient tous les concerts de rock. Elles moulaient même les pénis. Elles en ont fait des œuvres d'art, etc. Il y a la littérature sur le rock, la musique. Et après, c'est est-ce qu'il l'a droguée, oui ou non?
Oui, ce qui est quand même un gros. Et aussi qu'elle avait 16 ans.
Elle avait 16 ans.
Bah, c'est quand même un problème.
D'accord.
C'est un problème. Elle en aurait 19, je ne dirais pas la même chose.
Enfin, là elle dit qu'elle viole,
oui, bien sûr, la soumission chimique, et c'est, voilà. Et c'est le viol. Que lui, après, il y a un problème moral. Il y a un problème moral de savoir si oui ou non, quand tu as 32 ans, tu es une vedette, tu entretiens une relation avec une fille de 16 ans, c'est une chose. Oui. Après, est-ce qu'il y a eu soumission chimique et viol?
C'est le deuxième problème aussi.
Ça, c'en est un autre.
Mais non, mais ce que je veux dire,
dissocier les deux, quoi.
Mais il faut dissocier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
dissocier les deux.
Sur, je coupe juste 5 secondes. C'est que sur l'aspect soumission chimique, il va y avoir une enquête. Voilà, et on verra bien le résultat de l'enquête. Et mais par contre, sur l'aspect, elle avait 16 ans. Apparemment, il n'y a même pas besoin d'enquête, puisque là, lui-même reconnaît. Oui. La relation qu'il dit, qu'il prétend consentir, mais c'est déjà un problème en soi, qui est 16 ans.
Dans le récit de Flavie Flamand, quand même, elle dit que ça serait Patrick Bruel qui serait venu la voir dans une loge ou autre pour lui dire « Tu te souviens, ma cocotte ?» Bon, je le redis un peu en caricaturant, on a eu des rapports intimes. Donc ça te montre, si ça s'est passé comme ça, bien entendu, qu'il y a un sentiment d'impunité. Et quand tu vois le récit de toutes les plaignantes, que ce soit, parce que c'est pas que des viols, il y a des viols, il y a des agressions sexuelles, il y a des propos graveleux aussi. Donc voilà, il y a différents degrés. Il y a ce sentiment d'impunité d'un mec puissant et populaire qui pense que tout lui est permis parce que comme il plaît déjà à beaucoup de femmes, donc il n'est plus capable d'entendre le non.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, un dernier sujet de discussion avec vous au 32-16. Christophe Glaize, pas libéré, mais il est bien traité, visiblement. Gérald Darmanin, ministre de la Justice qui rentre d'Algérie, s'en satisfait. On en parle au 32-16 avec vous, midi moins 20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Je fais part de quelques réactions là qui arrivaient en instantané là sur le WhatsApp des GG. Il y a Louis notamment qui dit dans ce genre d'affaires, n'oubliez pas qu'ensuite il y a des personnes qui sont accusées, traînées dans la boue en passe publique, puis non poursuivies et qui voient leur carrière anéantie. Et Louis me parle d'Harry Habitant. Hervé qui lui dit je ne vois pas vraiment où est le problème, je suis sorti avec une fille qui avait 16 ans alors lui me dit j'en avais 18, ça fait pas de moi un criminel, mais c'est pas pareil effectivement. Hervé, vous aviez 18 ans, 2 ans d'écart, on peut dire vous êtes la même génération quand même. C'est Ghislaine qui dit attention les grandes gueules, il faut respecter la présomption d'innocence, laisser agir la justice, mais le nombre de plaintes est questionnant quand même. Et encore une fois, il faut sortir des vieux schémas. Une relation entre une enfant de 16 ans et un adulte n'est pas consentante. Moi, j'y vois plutôt, c'est ce que m'écrit Ghislaine, un phénomène d'emprise. Voilà ce qu'elle me dit sur le groupe WhatsApp.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, on continue la discussion, on continue de parler de ce qui fait l'actualité, de ce qui fait la société avec Joël Dagosséry. Oh, attendez! Là, j'ai une ambiance stade, une ambiance foot, une ambiance Coupe du Monde. Cette semaine, vous savez que c'est vous qui tentez de gagner la totale pour la Coupe du Monde, des écrans géants, des barres de son, des maillots des Bleus, des baby-foot et bien d'autres cadeaux. Il se gagne jusqu'au 29 mai sur RMC. Pendant 5 minutes, vous envoyez liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16. Ensuite, dans les shows d'RMC, vous avez le tirage au sort. C'est simple, juste liste et ensuite vous êtes tiré au sort. Tiré au sort, vous avez le tableau des 26 sélectionnés par Didier Deschamps. Vous en choisissez un et vous repartez peut-être avec la totale, c'est-à-dire l'ensemble des cadeaux, ou bien un baby-foot, des maillots des Bleus, des écrans, des barres de son, des barbecues. Tout ça, c'est pour vous. Profitez-en. Vous envoyez liste par SMS au 732-16. Il est 11h44. Vous avez jusqu'à 11h49. C'est vrai, on a mis une petite musique qui s'égaye puisque pareil Christophe Glaize est bien traité en Algérie. Là, tout va bien, ambiance Club Med, il est au soleil, il est dans un pays méditerranéen, c'est bien. Enfin, quand on écoute Gérald Darmanin, il se satisfait, le garde des Sceaux, que Christophe Glaize soit bien traité en Algérie.
Oui, c'est ce qu'a dit le ministre de la Justice de retour de sa visite à Alger. Il est très rassuré par la façon dont notre confrère Christophe Glaize, détenu dans ce pays, condamné à 7 ans de prison, condamnation définitive puisque le journaliste n'est pas pourvu en cassation. Donc il trouve qu'il est bien traité par l'Algérie. Alors, Gérald Darmanin n'a pas été voir Christophe Glaize en prison, donc je ne sais pas sur quel critère il peut dire ça. Surtout, on s'impose la question. on peut comprendre. Il est très gentil dans ses propos parce qu'il essaye d'obtenir la grâce présidentielle, Gérald Darmanin. Donc oui, il est bien traité, tout va bien, etc. Mais à quel moment on passe de la diplomatie à la soumission?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, non, mais c'est parce qu'en fait, la visite de Gérald Darmanin, en fait, avait d'autres objectifs qui, dans l'esprit du ministre, sont prioritaires. Oui. Les objectifs, c'était un peu les OQTF et beaucoup, beaucoup la DZ mafia en France. Mm-hmm. Je vous rappelle que DZ, ça veut dire El Jazair, c'est-à-dire l'Algérie. C'est un mouvement qui se revendique comme une mafia d'origine algérienne. Et, justement, dans cette mafia d'origine algérienne, il se trouve que la France a déjà des partenariats noués par Gérald Darmanin avec d'autres États. Je pense par exemple avec Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Il y a des partenariats anti-narcos. Il n'y en a pas avec l'Algérie. Et vu que Marseille, c'est juste en face de l'Algérie, qu'il y a une forte population d'origine algérienne à Marseille et qu'il y a un groupe qui s'appelle la DZ Mafia, avec souvent des gens qui sont binationaux dans ce groupe, eh bien, Gérald Darmanin souhaiterait un partenariat privilégié anti-narcotrafic et anti-DZ mafia avec l'Algérie. En fait, c'était ça, sa priorité. Après, sur les conditions de traitement, c'est quand même important, parce que l'Algérie, c'est un pays où la prison, ce n'est pas facile. Boualem Sansal, notamment au début de sa détention, c'était pas facile. Donc, bon, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de déplacé, de maladroit dans la déclaration du ministre, au minimum. Ce qu'on ne peut pas se réjouir, ce qu'on doit demander, c'est la libération immédiate et totale et le retour en France de Christophe Glaize. C'est ça qu'on doit demander. Et donc, on ne peut pas se satisfaire d'une demi-mesure, d'un quart de mesure,
heureusement,
qui serait juste un bon traitement. Donc, voilà. Non, pas se satisfaire de seulement ça, quoi.
Je vais le négocier.
Non, mais c'est bien parce que tu as bien énoncé la mission et l'objectif de Gérald Darmanin pour ce voyage. Puis après, tu reprends le côté Retailleau. Tu dis, quand il rentre, faut qu'il l'exige.
Non, mais il aurait pu ne rien dire.
Immédiatement.
Non, mais il aurait pu ne rien dire.
Tu vas en Algérie, il faut
silence
bien donner des
radio,
nouvelles de.
Pas obligé de dire que
tu es
très rassuré, que les conditions
sont
formidables.
Mais attendez, vous avez affaire à un pays qui est ultra susceptible.
Ah bah
l'Algérie,
alors, ah bah voilà.
Ultra susceptible.
Et donc nous, on
avec
pas
lequel, ah non, avec lequel, je crois, nous sommes en train de renouer tranquillement, fil par fil, bout par bout, puisque avant ça, je crois que c'était Nunes qui s'était déplacé, et avant ça, c'était la ministre des Armées, de la Défense, enfin, qui s'était déplacée.
Ah oui,
donc en fait, on est dans,
beau.
Voilà, non mais c'est pas ça, c'est qu'on est en train de retisser des liens qui sont, qui étaient plus que distendus pour ne pas dire cassés. Donc quand il rentre, bien sûr que Gérald Darmanin va faire un retour positif de son déplacement et donner des nouvelles positives parce qu'il ne faut surtout pas parler en mal de l'Algérie, notamment parce qu'il veut obtenir certaines choses que tu as énoncées, mais aussi, je l'espère, la libération de ce prisonnier.
Voilà, il a rien obtenu. Il est rentré d'Alger, il a rien obtenu.
Et d'ailleurs, il y a le ministre de l'Intérieur algérien qui doit aussi venir en France. Mm-hmm. Donc on est dans un ping-pong là. Moi, que je trouve plutôt pas mal parce que c'est dénué d'émotions, de sentiments, de morale. On est sur du pragmatisme.
Donc
tu me donnes.
Et là, tu trouves qu'on a gagné des choses complètement. Parce que j'aime bien, moi, le pragmatisme, je suis d'accord avec toi.
Mais ça, on verra à la fin. Moi, mais tu sais qu'on avait une méthode qui ne fonctionnait pas.
Laurent Nunes se félicite. Il y a eu 150 reconduites à la frontière.
Mais attendez, tout ce qui a été fait avant était en échec total. Donc, l'ordre et les déclarations de M.
Retailleau
ont crispé.
Mais non, c'est pas Retailleau qui a crispé.
C'est
le fait que Macron se positionne.
Voilà, c'est le Maroc, c'est la reconnaissance du Sahara marocain.
Oui, c'est vrai.
Mais Retailleau
n'a pas aidé dans ses déclarations.
Il faut épargner Mélenchon.
Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait.
C'est ça qui a provoqué la crise.
Vous faites bien me le rappeler, je vous l'accorde. Néanmoins, reconnaissez que ce qui avait été fait avant, notamment par le précédent ministre de l'Intérieur, n'avait porté aucun fruit. Donc, on peut voir si une méthode différente va porter des fruits. On a le droit quand même de changer de méthode. Mais non, mais vous n'êtes pas des ânes battés pour aller faire la même chose.
Mais par rapport à cette déclaration, quand même, il aurait pu le formuler d'une autre manière. Les discussions avancent. Quand tu dis, bon, il est bien traité. Quand tu connais la dureté des prisons en Afrique, voilà, Fleury-Mérogis, c'est un hôtel 5 étoiles à côté, hein. Donc, on est dans cette politique aussi qui court après les réseaux sociaux, qui se sent obligé de surcommuniquer. Fut un temps où la politique avait de la noblesse et les discussions diplomatique se passait dans des espaces fermés et on attendait les résultats. Donc, il pouvait dire tout simplement les discussions à avance et on va voir ce qui va se passer. Mais dire ça, ça met de la confusion. Je ne sais pas si la famille, en entendant cette déclaration, s'est sentie rassurée.
Ouais, je pense qu'il les a appelés quand même. Aussi,
si dire bien traité, en gros, ça veut juste dire il est vivant, mais dans quel état, c'est un petit peu compliqué.
Et peut-être que c'est bien traité. Donc,
ça envoie quand même un signal de faiblesse. Parce que je rappelle quelque chose
de l'Algérie. Peut-être que c'est ça.
Je rappelle que lors du premier mandat de Donald Trump, un pasteur protestant américain avait été emprisonné en Turquie sur ordre de M. Erdogan, qui est par ailleurs un ami de Donald Trump. Donc là, Donald Trump s'était un peu fâché avec son ami Erdogan et il a mis un coup de pression. Et je peux... Non, c'est vraiment son ami. Ils sont vraiment proches, ils se connaissent depuis longtemps dans l'immobilier. Quand Erdogan était maire d'Istanbul et Trump maniait de l'immobilier. Donc ils se connaissent et ils s'apprécient. Et Trump a mis la pression sur Erdogan. Je peux te dire que le pasteur, il a été vite libéré. Hein, il est, donc, voilà, il
veut dire qu'on n'a pas les mêmes moyens de pression.
Non, mais on n'ose pas. C'est-à-dire que il y a eu un vrai coup de pression. Et d'ailleurs, après, les relations ont repris très normalement et très positivement entre la Turquie, membre de l'OTAN, et les États-Unis. Ça n'a pas eu de conséquences. Donc moi, je pense que c'est là où je ne suis pas du tout retailliste, contrairement à ce que croit Joël. Moi, je pense qu'il faut arrêter, d'une part, la politique à la Retailleau des coups de menton, en effet, parce que dans ce cas-là, tu soudes la population algérienne très susceptible et son gouvernement. Donc il faut arrêter la provocation, arrêter les coups de menton. Mais en même temps, il faut être discrètement beaucoup plus ferme. Je pense, par exemple, au compte en banque, ou aux appartements des élites algériennes en France, à Paris, à toutes les pressions que tu peux exercer. Tous les dignitaires algériens que tu soignes en France, qui ont leur compte en France, qui ont un appartement en France, la question des visas, voilà les visas que tu distribues à tour de bras aux élites algériennes ou à leurs enfants pour étudier en France. Tout ça, sans donner de coups de menton, de manière silencieuse, tu peux frapper extrêmement fort. Et je veux te dire que là, Christophe Glaize, il serait libéré assez vite et aussi vite que le pasteur américain
en
Turquie.
Sauf qu'on donne toujours l'impression d'être nous coincés, quoi, si tu veux. C'est-à-dire on est obligé, comme si on était obligé de dire publiquement merci, est venu, merci.
Mais comme on dit, parce que la France,
c'est ça qui est,
la
qui est énervant.
La France est soumise, et la France est le paillasson de la planète, on l'a vu avec Nicolas Dupont-Aignan, la France est soumise à l'Union Européenne et à Bruxelles, elle est soumise à l'Allemagne, elle est soumise aux États-Unis à travers l'OTAN, et les défauts aussi soumise à Israël et elle est soumise là à
l'Allemagne. Elle a pas.
Il y a un seul pays qu'on n'a pas le droit de citer, l'Union Européenne.
Je vois pas entre quoi l'Union Européenne a à voir.
Merci mes chers GG, merci Jean-Loup, Abel et Joël, à bientôt.
La France est soumise structurellement des puissances étrangères.
Demain, nous serons là avec Emmanuel Duvillier, le chef d'entreprise, Sandrine Péan, l'avocate, et c'est le retour de notre fromager des Deux-Sèvres, Johnny Blanc. Il revient dans les GG, l'ami Johnny, content de le retrouver demain entre 9h et midi. Vous avez raté les grandes gueules, n'oubliez pas les podcasts à votre disposition et vous saurez dans les podcasts, dans les petites discussions hors micro, les bonnes blagues des GG et ça vaut surtout celle de Joël valent être écoutées. Ah oui. Et puis si les GG sont économes ou dépensières.
Ça, je le sais.
Ah bon ?
Pardon.
T'as des infos. Allez, alors, hop, vas-y, envoie. Bonjour Estelle.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Dans Estelle Midi, on va poursuivre le débat que vous avez amorcé tout à l'heure sur le film L'Abandon, sur les derniers jours de Samuel Paty, ce qu'il faut diffuser dans tous les collèges et lycées de France. On aura Tristan Bannon avec nous qui est en train de lancer une pétition justement pour alerter le ministre de l'Éducation pour faire que ce film soit diffusé. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas ? Eh bien, vous nous appelez au 3216. On parlera également du ras-le-bol des seniors maltraités en entreprise. Il y a le coup de gueule d'un senior qui dit « je suis vieux et je vous emmerde », qui a fait des millions de vues sur LinkedIn. Mais pour vous, un quinca au boulot, est-ce que c'est un cadeau ou un fardeau ? Est-ce que c'est vraiment sympa d'avoir un senior dans son
Anaïs
équipe ?
Anaïs est en train de hurler un fardeau, je ne sais pas du qui elle parle.
Ah oui, vous serez jeune éternellement, les GG.
À mon avis, c'est un cadeau.
Oui.
Tu regardes des pays comme l'Allemagne ou le Japon, c'est eux qui transmettent toute l'expérience industrielle. Industrielle au SAE des nations. Beaucoup plus industrialisées.
Mais bientôt, en France, les quinquas seront majoritaires. Donc la question ne se posera plus.
On enchaîne. On va parler de culture, politique, musique. Est-ce qu'il y a trop de fils d'eux ? Il y a des fils d'eux partout aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être fils d'eux ? On en parlera. Et puis, la success story de Marie Blachère qui est en train de rattraper McDo et Burger King. Mais pour vous, déjeuner à la boulangerie, est-ce que vous trouvez que c'est un bon plan ou c'est totalement déprimant ?
C'est déprimant.
Ouais, déprimant.
C'est typique une boulangerie de rond-point de la France périphérique. C'est très intéressant.
Le pain est bon chez Marie Blachère, mais moi, déjeuner à Marie Blachère, c'est pas possible.
Mais un très bon sandwich, ça vaut tous les burgers.
Ah non.
Bah bien sûr, une bonne baguette. Mais bien sûr, une bonne baguette.
Un sandwich pour regarder la tête du jambon. Bah moi, je l'ai fait une fois.
C'est incroyable de dire ça. C'est très bon. Un bon sandwich saucisson cornichon.
C'est fini. Bon débat avec l'ami Estelle au 32-16 jusqu'à 15h.